Brume 90.7, nouvel entretien Confluence Cinéma avec messieurs Raphaël Lorenzo et Hakim Fdaouch. Bonsoir à vous messieurs.
Bonsoir Amaury.
Bonsoir à tous.
Alors c'est une soirée cinéma américain, on revient un petit peu à vos valeurs préférées, la Grande
film,
Amérique.
Le film de Hakim est un film français.
Ah,
oui,
au nom anglo-saxon.
Oui, oui.
Alors le programme aujourd'hui, donc en dernière partie, on va commencer par l'inverse. Tiens, on parlera de Fritz Lang. Hakim, tu nous parleras notamment d'une sortie DVD.
À l'occasion de la sortie chez Carlotta du Secret derrière la porte, un film noir réalisé par Fritz Lang durant sa période hollywoodienne.
Alors on fera aussi un petit retour sur la carrière et les grands films de Fritz Lang. Deuxième partie, ça sera un débat, une discussion autour de Monument...
Man, dernier film de Mr. George Inside.
Ça fait pas mal de temps qu'il est sorti, mais on n'avait plus eu la chance de vous le chroniquer encore, donc on le fait.
La semaine dernière, oui.
Et première partie, alors on commence par qui a envie de se lancer.
Allez,
cinéma indépendant avec Raphaël.
Oui, mais un film que tu pourras apprécier, Amaury, puisque la star du film n'est autre que James Gandolfini. Donc, Monsieur Tony Soprano, et c'est son dernier film, malheureusement, avant de mourir. Hein. Il est mort 3 mois avant la post-production de ce film, et c'est une comédie romantique, et il tient l'affiche avec Julia Louis-Dreyfus, qui est l'actrice de Seinfeld, la fameuse Hélène de Seinfeld. Donc pour les amateurs de série, c'est déjà assez intéressant. Mais le film, c'est un film indépendant américain, réalisé par une metteur en scène que je ne connaissais pas, hein, qui s'appelle Nicole Olofssener, si je ne m'abuse, un nom un peu difficile à prononcer, hein, et qui a fait des séries télé, mais aussi des films indépendants avec pas mal de stars à l'époque, comme Jennifer Aniston qui sortait de Friends, et son actrice fétiche qu'on retrouve aussi dans ce film All About Albert, c'est Catherine Keener qui est dans tous ses films. Hein, et là, le film raconte l'histoire d'une masseuse incarnée par Julia Louis-Dreyfus, qui est une mère divorcée, sa fille va bientôt partir à la fac, elle a environ 18 ans, sa fille. C'est une femme un peu enfant, donc voilà, elle vit, voilà, elle est un peu immature. Et dans une soirée, elle va rencontrer un charmant homme qui est donc interprété par Gandolfini, qui est aussi un père divorcé. Ils vont tomber très vite amoureux. Et elle va comme ça tomber sur une nouvelle cliente, une nouvelle femme amassée, Catherine Keener, et qui va sans discontinuer déblatérer des horreurs sur son ex-mari. Et elle va se rendre compte en fait, que ce gars-là, ben, c'est son nouvel amant, qui est James Gandolfini. Donc, pour le coup, il y a pas mal de quiproquos, d'humour assez corrosif sur Gandolfini. Mais c'est un film qui parle de petits détails. Donc, on parle de yaourt allégé, on parle de pied, on parle de si on bande pendant les massages. Enfin, plein de sujets comme ça de la vie qui se rajoutent comme des couches et qui donnent vraiment de l'épaisseur à tous les personnages. Et c'est un film, là j'ai devant les yeux un papier que j'avais demandé à Hakim des Cahiers du cinéma, il me l'emmenait gentiment sur James L. Brooks, j'en parle souvent, et c'est vraiment dans la lignée d'El Brooks, donc des personnages qui vivent, des tranches de vie comme ça, et on les suit, on prend plaisir à les voir, d'autant plus que voilà, Gandolfini, pour une fois, je trouve, depuis la fin des Sopranos, sort vraiment de son rôle. Là, c'est un bonhomme jovial, avec encore ses petits yeux tristes, sa grande respiration, et c'est un plaisir immense que de le voir, mais en même temps ça fait du mal puisqu'on sait la fin tragique qu'il a eue. Le film lui est dédié, hein. C'est le deuxième film qu'on voit en 2 semaines dédié à Gandolfini après Heure, la semaine dernière, Hakim peut le confirmer, hein.
Oui.
Et c'est un film, voilà, où il brille puisqu'on l'attend pas du tout dans ce rôle là un sacré bonhomme, très gentil, très ours, très pato, très maladroit, et il forme un duo extraordinaire avec Julia Louis-Dreyfus. Ça fonctionne, l'histoire d'amour du début à la fin, et c'est vraiment un très beau film, très fragile, sur des beaux sentiments, qui est pas du tout cynique, et moi j'aime voir ça, voilà, c'est un film sur le printemps, ça va bien avec, c'est l'amour, donc moi je vous le recommande vivement, d'autant plus que moi j'ai pu le voir qu'au Comédia, j'ai changé un peu mes habitudes pour une fois.
Il faut aller au Comédia, ouais. C'est un très très beau cinéma qui a une très bonne programmation.
Et voilà, j'aimerais aller.
Moi, je ne vais qu'au Comédia, messieurs.
C'est bien.
Mais il faut que j'y retourne plus souvent. J'y vais de temps en temps, mais c'est vrai qu'ils prennent des risques avec des programmations comme ça, des films indépendants qu'on ne voit pas ailleurs, et tant mieux. Et voilà.
Eh bien, moi, le film que je vais évoquer, le Comédia, le programme. Je crois que vu que les horaires ont changé, vu qu'on est le mercredi, il diffusait qu'à une seule séance. Par contre, l'UGC Confluence, lui, le diffuse toute la journée. Et c'est un sacré risque parce que c'est Wrong Cops de Quentin Dupieux, que vous devez connaître ici. Peut-être Amaury pour ses tubes électro, hein, qui l'ont fait connaître avant d'être cinéaste. Hein.
Un petit peu, ouais.
Monsieur Oiseau.
Alors, c'est vrai qu'il a quand même une... avant de parler rapidement du film, hein, qui est dans ce qu'il a toujours fait habituellement, mais qui est un peu plus accessible que ses précédentes œuvres. J'aimerais revenir un petit peu sur sa carrière qui est quand même un destin fabuleux. C'est que c'est quand même un gars qui a réussi à rentrer dans le monde électro grâce à un tube qu'il a fait, qu'il a composé en 2 heures, qui s'appelait Flat Beat en 99. Et il va également faire pas mal de publicité pour Levi's, qui va le rendre très très célèbre. Et vu qu'il est avant tout grand fan de cinéma, il va faire ses premiers films à l'âge de 16 ans avec une caméra 8 mm, avec une caméra Sony qu'il va commander pour Noël. Il va faire un film en Espagne qui s'appelle No Film, un moyen métrage de 41 minutes tourné en Espagne, composé de 30 plans séquences, très dogmatique hein, dans son approche esthétique, qui ne va pas du tout rencontrer de succès. Hein. C'est bien entendu un film autoproduit, mais qui va taper dans l'œil de Eric et Ramsey, qui vont lui proposer de réaliser Steak, ce film qui au départ est produit par Langman, le producteur de The Artist, qui va se casser la gueule au box-office parce que les gens, et je parle en tant que témoin car je suis allé avec des amis qui adoraient Eric et Ramsey, personne ne va y accrocher.
C'est du moins non sensique.
Exactement. Et Langman va se retirer du projet tellement il a pas du tout approuvé le résultat final. Mais paradoxalement, le public va bouder le film, mais les critiques vont commencer à faire les yeux doux à ce metteur en scène qui va ensuite enchaîner les autres films tout aussi absurdes les uns des autres. Rubber en 2010, l'histoire d'un pneu tueur en série. Autoproduit, pareil, un des premiers films tournés avec l'appareil photo Canon 5D. Qui va se retrouver en semaine de la critique. Là également, les critiques vont commencer à lui consacrer des pages. Et Quentin Dupieux, c'est tout l'inverse du metteur en scène qui cherche à devenir célèbre. Il fait ses films comme bon le semble. Si les gens ont envie de le suivre, très bien, allons-y. Si vous ne voulez pas, tant pis. Il s'est expatrié ensuite à Los Angeles où il vit avec sa famille et où il tourne maintenant avec le Eric des Eric et Ramsey très régulièrement.
Marilyn Manson aussi. Ouais.
Marilyn Manson qui joue excellemment dans ce rôle, Wrong Cops, qui, comme je l'ai dit, est dans la même veine de ce qu'il faisait avant, donc des sujets assez absurdes. Là, c'est Wrong Cops, ça, le titre traduit exactement ce que raconte le film. Hein. C'est un film choral, on va dire, qui suit le parcours de plusieurs flics travaillant dans le même commissariat de Los Angeles. Un policier qui vend de la drogue, qu'il refourgue dans des cadavres de rats. Un autre qui est fanatique et fétichiste des fortes poitrines. Donc, du coup, il arrête des jeunes filles et il leur demande, en les menaçant avec son flingue ou en les arrêtant, de leur montrer sa poitrine. Un autre flic qui, pour arrondir ses fins de mois, pose dans des revues gays. Et tout ça, tous ces profils vont se réunir pour finalement... Il y a également le petit Eric hein, qui complètement borne avec un œuf de poule sur la tête et un bandeau qu'on pose de la musique électronique à ses heures perdues. Alors là, on sent Quentin Dupieux dans le personnage. Et tous ces personnages vont finalement se réunir à la fin dans un climax que je ne vais pas dévoiler. Mais c'est peut-être son film le plus abordable, moins compliqué. Son précédent film, Wrong, était assez complètement fou et beaucoup moins linéaire. Là, c'est un peu plus épuré. Il y a Marilyn Manson qui joue le rôle d'un étudiant... un peu à l'ouest, qui malheureusement est victime d'un des deux policiers
sans maquillage,
faut le préciser. Victime d'un des policiers qui l'oblige à écouter de la musique électro et que lui trouve un peu trop fort, ce qui est quand même un comble quand on connaît la musique qu'a fait Marilyn Manson. Moi j'adore Quentin Dupieux, c'est un humour assez spécial, ça peut plaire, ça ne peut pas plaire. Là encore, les Cahiers du cinéma lui font une double page d'interview. Pour moi, c'est l'équivalent des auteurs de la Nouvelle Vague, des metteurs en scène qui font des films sans argent. Il produit ses films avec l'argent qu'il gagne en étant DJ. Et son prochain film, Réalité, a déjà été tourné dans la Sierra Madre avec Alain Chabat et Elodie Bouchez. Je crois que ça va devenir, pas notre Woody Allen en tant qu'artiste, mais voilà, le réalisateur que toute star doit côtoyer. Tout le monde maintenant va devoir être obligé de faire un film de Quentin Dupieux pour, dans sa filmographie.
J'aimerais juste dire un tout petit mot sur Dupieux. Moi, je t'avoue, je ne suis pas du tout fan.
C'est spécial.
Non, mais c'est même pas par rapport à ça. Moi, ce qui me dérange, c'est surtout le petit poulain des hipsters, en fait. C'est pour ça qu'il marche. Il a la carte pour ça, quoi. Il est entre guillemets cool. Et ce qui me dérange un peu dans ces comédies, c'est pas des comédies pour faire rire ou des comédies dans le sens d'être comique. C'est des comédies pour justement poser, pour moi. Pour revendiquer une certaine forme d'intelligence ou de décalage par rapport. Tu vois ce que je veux dire ? Une forme de certain second degré, voire même de cynisme par rapport à ça. C'est ce qui me dérange un peu chez Quentin Dupieux, moi.
Non, mais ce qui est tout à fait logique. Hein. Comme je l'ai dit, c'est très, très. C'est un humour très radical hein, qui peut plaire ou ne peut pas plaire. Hein. Mais l'idée de Rubber, l'idée quand même d'un pneu tueur, je trouve ça génial.
Ok, on écoute un premier morceau de musique et on se retrouve après pour parler du film Monument Man. We'll be right back. deuxième partie de cet entretien Confluence Cinéma. Et nous allons donc parler du film Monument Man, qui a fait pas mal couler d'encre depuis quelques semaines.
Un gros film de George Clooney, pour une fois produit par la Fox, qui a un gros studio, ce qui est assez étonnant de la part de Clooney, puisque c'est un metteur en scène, pas un acteur ici, hein, qui vient du cinéma indépendant américain quand même.
Confession d'un homme dangereux, son premier film.
Ouais, ouais, Confession d'un homme dangereux.
En 2003.
Après, il avait fait Good Night and Good Luck, qui était un film en noir et blanc, sur la politique, sur le macartisme.
Qui avait marché, il n'avait pas eu un Oscar pour ça
Il est assez régulier, non? J'ai l'impression que Clooney, en fait, il comme ça, tous les... un an ou deux, il fait un petit film.
Il avait fait Joe Dube sur le football américain, on aurait pu en parler aussi dans l'émission spéciale.
Et il a fait le film sur la politique.
Et ouais, les marches du pouvoir, qui était vachement bien avec Philippe Seymour Hoffman et Ryan Gosling, qui était sur un coin démocrate, la primaire, etc. Comment faire pour se faire élire.
Il y avait une histoire sexuelle, une histoire de cul entre le candidat et une
chantage. Une
et le film est arrivé quelques mois après l'affaire des SK, et donc du coup ça m'avait bien
fait rigoler. Oui, c'est vrai, il y avait ça aussi.
Il y avait cette coïncidence assez trouble. Bon, le film avait été conçu bien avant l'affaire, mais voilà, ça m'était...
C'est peut-être DSK qui s'est inspiré du film finalement.
Peut-être.
En attendant le DSK de Ferrara.
Ouais.
Voilà, à voir. Film-là, du coup, c'est quoi? On est dans un vrai élément d'histoire. Comment j'ai pas trop
alors
suivi
c'est un
moi
film,
ça.
Oui, c'est un film de guerre. Ça.
Je veux dire, historiquement, ça s'est vraiment passé.
Oui. C'est l'histoire d'une unité appelée Monument Man qui avait pour objectif de récupérer toutes les œuvres d'art, toutes les toiles, les peintures, etc., confectionnées par les nazis. À travers tous les pays d'Europe.
Non. Les nazis ont spoilé en fait les œuvres d'art ayant appartenu aux juifs et aux autres déportés.
Oui, ils ont volé, c'est ce que je dis.
Ils ont récupéré. Non, mais t'as dit confectionnés par les nazis, ils ont pas fait ces œuvres d'art.
Ah, pardon, excusez-moi, oui. Ah non, pardon.
Toute l'histoire d'art, donc ça va de Picasso à Raphaël, etc.
Confectionnés.
Oui.
Et donc, du coup, voilà, l'équipe est menée par George Clooney qui. Alors. Justement, et c'est là où ça m'a un peu surpris, parce que moi, comme d'habitude, je vais au cinéma sans lire trop les résumés, sans trop voir les bandes-annonces. Et en fait, il ne récupère pas des vrais militaires, il récupère dans une unité des chercheurs, des archéologues,
des architectes,
et même des directeurs de musées, pour justement...
Des experts en art.
Voilà, des experts en art, pour pouvoir vérifier que ces tableaux, que ces œuvres sont véridiques. Et du coup, ça donne, au final, une épopée pas si spectaculaire que ça. C'est un petit peu à la façon d'un Ghostbusters. C'est pas un film frontal, avec des combats épiques. C'est plus des films qui se basent sur des scènes et des situations simples, un peu cocasses, vu que les personnages sont cocasses. Et c'est peut-être ce qui a un peu déplu aux spectateurs qui pensaient aller voir un film à grand spectacle, vu le casting qu'il y avait, vu les ambitions qu'il y avait. Et en fait, non. Et moi, ce que je reproche au film, qui se regarde bien, mais on a vraiment par moments l'impression d'assister à la Sixième Compagnie faite par George Clooney avec beaucoup plus de moyens. Mais... voilà, on a l'impression que George Clooney n'a pas réussi, et c'est un con pour l'acteur qu'il est, à ressortir le meilleur potentiel de tous les bons acteurs qu'il avait. Goodman,
rappelons les acteurs peut-être avant.
Matt Damon, voilà, on a Matt Damon, on a Goodman, on a Bill Murray,
Bob Balaban,
Jean Dujardin, Cate Blanchett, et on les voit pas à leur niveau. On a l'impression qu'ils font du sous. Et bon voilà, et à l'image de ce pauvre Matt Damon qui avec le temps, j'arrive quand même à l'apprécier avec le temps, mais qui dans plusieurs scènes essaye de parler français, et à chaque fois on lui dit mais arrête de parler français, t'es ridicule.
Il y a une séquence assez rigolote où il parle français avec Alexandre Desplat, qui fait la musique du film, hein. La musique du film déchire, je trouve, elle est vraiment à l'ancienne. Ah ouais.
Ah, la scène, ouais, ça fait...
Dans les Man in Mission, c'est vraiment hommage au genre qu'est les Man in Mission, c'est-à-dire tous les commandos américains qui partaient pour des missions justement comme
Glory Bastard, par exemple. Ça fait très agence touriste. Hein.
Ça fait le Doux Salopard. C'est le thème, et on se ressemble vraiment au Doux Salopard ou La Grande Évasion, tous ces grands thèmes populaires. Et ça m'a plu, le côté musical et Desplat. Donc, joue un paysan français résistant qui aide Matt Damon quand il débarque. Il y a un gag assez rigolo.
Ouais, mais du coup, dans la séquence, tu as d'un côté un acteur qui essaie de parler français, mais avec un accent, mais alors coupé au couteau, qui est pas du tout bon. Et d'un côté, tu as Alexandre Desplat qui joue ce fermier français qui. on le voit, n'est pas un grand acteur, hein, n'est pas un acteur.
Oui, et du c'est coup, un clin d'œil.
Donc, mais... du coup, ça donne une séquence qui fonctionne à moitié, je trouve, hein, qui est pas très, très bien maîtrisée. Après, moi, j'ai entendu quoi, là, des gens sortaient de la séance. Voilà. Bon, il ne faut pas non plus déconner. Ça reste un divertissement, mais comme tu le disais, peut-être trop public.
Bah, moi, je t'avoue, le film, voilà, pour moi, c'est une sorte de Douce Salopard en version art, on va dire, culture.
Et soft. Hein.
Oui, oui, non, mais
parce
pas.
Il n'y a pas de. Y a pas
non, mais le côté team, je veux dire, le côté équipe, oui, hein. Le côté. Oui, hein. On va engager des talents divers pour une mission. Mmh. Voilà, ce côté grand spectacle populaire d'autrefois, à l'ancienne. Comme je t'ai dit, la musique, je pense, joue beaucoup. Le casting, évidemment, travaille énormément là-dedans. Mais voilà, peut-être un peu trop grand public. Moi, ce qui m'étonne. C'est pas le côté voilà anti-spectaculaire. Je m'attendais à un film vraiment engagé qui rentrerait dans le décortiquage de comment on récupère les œuvres, pourquoi les nazis ont récupéré ces œuvres-là, comme avait fait Clooney sur la politique, comme il avait fait sur la télévision.
Oh, bah, c'est expliqué dans le film, c'est Troisième Reich, Hitler qui voulait créer dans sa ville d'origine en Autriche le plus grand musée.
Je voulais vraiment rentrer dans les détails, tu vois. On voit une course avec les Russes, les Russes aussi veulent s'emparer. C'est pas trop traité, tu vois.
Oui, on voit la fin, on voit des Russes.
Il y a plein de pistes qui sont intéressantes. Pourquoi le gouvernement, tu vois, américain, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces œuvres, enfin, plein de questions sont posées. C'est pas trop traité. Ça me paraît bizarre de la part de Clooney, qui est quand même. On va dire presque un cinéaste journaliste parce qu'il plonge dans des sujets comme ça un peu douteux, voilà, un peu étrange, un petit peu ambigu. Et là, il va pas jusqu'au bout du truc. C'est un film grand public, fait pour tout le monde, je pense. Il y a pas de gros mots, il y a des beaux paysages, etc. Et moi, ce qui me dérange au niveau acteur, c'est qu'il n'y a pas le côté troupe, justement. C'est plein de duos, il y a plein de duos. Donc, tu as le duo Bill Murray-Balaban, Goodman du Jardin, le duo Kate Blanchett-Matt Damon et Clooney qui supervise le tout. Dans différents endroits en Europe, en Belgique, etc.
Oui, parce que l'histoire, c'est que le commando arrive en France, mais après, les différents mobs, les Monuments Man sont
dispersés dans,
voilà, à Bruges, etc.
En Allemagne et compagnie. Du coup, il y a un élément de comparaison très vite. Ce duo est plus drôle que l'autre. Moi, j'ai plus de sympathie du coup pour le duo Bill Murray-Balaban. Il y a cette très belle séquence où Bill Murray, je trouve que c'est le meilleur du film encore. Enfin, moi, je suis fan de Bill Murray, mais il y a une séquence où il arrive dans un camp militaire, il va prendre sa douche, il reçoit un paquet de ses enfants, un disque, il lui manque un gramophone, et Balaban, un peu comme dans Les Évadés, il n'y a pas la même séquence, va mettre le gramophone dans le parleur général de la troupe, et Bill Murray va entendre ses enfants lui chanter un chant de Noël. C'est une séquence qui est un peu gratuite, faut l'admettre, mais qui est très très belle dans le film. Bah, Bill Murray le joue de manière extraordinaire.
Bah, moi, il y a une autre séquence. Pour moi, la meilleure séquence du film, c'est pas celle-ci, mais également Bill Murray. C'est le moment où il va être amené à retrouver la trace d'un ancien SS nazi qui. Le film se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est un SS qui a réussi à partir, à retrouver son Allemagne natale, et dans une maison entourée d'œuvres d'art. Et le problème, c'est qu'il ne sait pas.
C'est des copies,
que...
ouais.
Non,
il dit que c'est des copies.
C'est des copies, mais il ne sait pas que les personnes qu'il a en face sont des experts et qu'il remarque très rapidement que. Et à la fin, il y a ses enfants.
Donc ce duo est très drôle, voilà, le duo Balaban Moret marche très bien.
Mais voilà, il y a ce petit côté épique qui manque peut-être, qui fait que George Clooney aurait pu rajouter. Quelque chose qui aurait donné une œuvre importante, qui aurait compté dans l'histoire du genre.
Alors rappelons quand même que c'est une histoire vraie. Le personnage interprété par Kate Blanchett est une vraie résistante qui a vraiment existé. Hein. Son vrai nom, c'est Rose Valland. Elle était de la région, d'ailleurs, Rhône-Alpes. Hein. Et cette femme a numéroté. En fait, elle était au musée d'Orsay, au Jeu de Paume, pardon. Musée de Jeu de Paume à Paris, où il y avait plein d'œuvres d'art où Göring venait récupérer en fait les œuvres d'art pour Adolf Hitler et elle numérotait en fait les destinations de tous les tableaux. Elle faisait croire qu'elle ne parlait pas l'allemand alors qu'elle le comprenait parfaitement et ça c'est très intéressant pour le coup. C'est la partie peut-être la plus documentée sur le film, la plus réelle, mais c'est pas plus traité que ça et ça c'est un peu dommage quoi.
Voilà, donc c'est un film en demi-teinte, pas si mauvais que les gens ont peut-être l'ont décrit dans la presse.
Non, c'est pas un mauvais film, ça se laisse voir avec plaisir en tout cas. Puis ce côté voilà à l'ancienne, moi j'aime bien le générique de fin avec toutes les vieilles tronches, tu sais. Ah, c'est lui, je l'aime bien, c'est Jean du Jardin, tu sais. J'aime bien ce côté-là qu'on retrouve dans les vieux
puis
films.
Jean du Jardin, faut dire ce qu'il est bon.
Il a un petit rôle. Hein,
Il a un petit rôle, il a deux, trois répliques en anglais. Bon, voilà, c'est le Frenchie par excellence. Je sais qu'il était très, on sait qu'il était très pote avec Clooney, que le film s'est fait juste après l'Oscar qu'il a obtenu pour The Artist.
Et tu vas rire, mais il y a un plan qui m'a quand même assez surpris dans le bon sens du terme. C'est une question que je pense tous les cinéastes, de toute façon, doivent se poser quand ils représentent le nazisme. C'est comment représenter Adolf Hitler. Et je trouve la manière dont Clooney représente Hitler, c'est l'une des plus flippantes que j'ai vues.
Non.
Toute simple, non mais dans l'allégorie. On voit en fait le musée d'Hitler. Donc il y a un petit suspense. En fait, on comprend que c'est la maquette d'Hitler avec une petite caméra qui est dedans. Hein. Et du coup, la caméra recule. Et on voit Hitler juste dans la pièce en train de regarder ça. Et il n'y a pas un mot. C'est le seul moment où on voit Hitler. Et je trouve que c'est un peu à la Spielberg, tu sais, dans Indiana Jones. Il n'y a pas besoin de mots. Juste par le cadre, juste par l'éclairage, tu avais représenté le mal absolu. Et ce plan-là m'a vraiment plu. Moi. Je le trouve très intéressant.
Ok, voilà, on passe à la troisième partie alors, messieurs.
Mais oui, Fritz.
Lang,
tout de
suite. Un petit morceau de musique et on se retrouve pour parler de ce grand réalisateur. Dernière partie de cet entretien Confluence et nous allons donc parler de Fritz Lang.
Oui, ah, c'est drôle parce que je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu avais un petit effet de voix quand tu as repris l'antenne.
Ouais,
et c'est le même effet de voix que Mabuse a dans le testament du docteur Mabuse, Fritz Lang.
C'était un clin d'œil. Ouais.
Oui, alors nous profitons de la sortie chez Carlotta. Je me permets de faire une petite remarque parce qu'ils sortent vraiment de très beaux titres. Hein. Très prochainement, ils vont sortir un très gros coffret au Zoo. Et ils vont ressortir en DVD La Valse des Pantins, un film qu'on aime beaucoup ici. Et là, ils ressortent Le secret derrière la porte de Fritz Lang, qui était déjà sorti chez Wildside. Donc, ils le ressortent avec une nouvelle copie avec des bonus différents. Hein. Donc là, c'est quand même assez ingénieux comme idée. Et donc, oui, on va évoquer Fritz Lang. On a
15 minutes, je crois. Donc, un peu dur d'évoquer la carrière de Fritz Lang en un si peu de temps. Donc, on va essayer d'être assez synthétique. Hein. Fritz Lang, il est né en 1890. À Vienne, en Autriche, et il est fils d'un architecte. Et très rapidement, son père va vouloir l'initier au métier. Il veut qu'il devienne architecte, mais Fritz Lang, lui, il n'est pas dans ce trip-là. Il est plus artiste, peinture, etc., etc. Et très rapidement, il va mener une vie de bohème en partant dès l'âge de 18 ans en faisant le tour du monde. Donc là, pareil, on en parlait en antenne. Fritz Lang, à l'instar de Hitchcock et de tous ces grands réalisateurs un peu mégalomanes, était un gros menteur.
Alors, un gros roublard du cinéma. Ouais.
Donc est-ce qu'il disait qu'à l'époque, il était même allé jusqu'à Bali, en Asie mineure, en Chine, bon, à 18 ans, dans les années 10, c'est ce qu'il a vraiment fait. Bon, on sait qu'il a voyagé à travers l'Europe, qu'il est allé en Afrique du Nord, etc., etc. Et juste après, il va revenir en Autriche. Il va ensuite s'expatrier à Munich, en Allemagne, pour entrer dans une école des beaux-arts. Il va commencer à faire la peinture. Il va vivre de façon assez précaire de ce qu'il fait. Il va ensuite rentrer à la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, où il va beaucoup combattre en Italie. Et juste après, en revenant, il va vraiment s'intéresser au cinéma. Il va commencer à écrire des scénarios. Et petit à petit, dès 1919, il va mettre en scène Les Araignées, un film qui va le rendre très, très célèbre. Et ensuite, en 1921, va réaliser un de ses premiers chefs-d'œuvre qui est Mabuse, qui est une grande fresque, enfin une fresque. Deux films de 2h20 quand même, sur Mabuse, ce personnage qui n'est pas sans rappeler le Fantomas, la première version, pas celle de
avec oui, de Feuillade, de Feuillade.
Voilà, exactement.
Oui, les grands céréoles des années 20-30 qu'on retrouve à l'époque au cinéma.
Que Fritz Lang a vu à l'époque à Paris, parce qu'il a séjourné pendant plusieurs années à Paris, à l'époque où il menait sa vie de bohème. Donc voilà, un élément important, sa rencontre avec Thea von Arbou, hein, qui va être sa femme pendant 5 ans, avec qui il va écrire plusieurs grands chefs-d'œuvre, hein, donc Métropolis, Les Espions, Harakiri, cette fresque, alors j'oublie à chaque fois le nom, une fresque allemande qui se passe à l'époque moyenâgeux, je récupérerai tout à l'heure le nom, c'est une fresque également sur 2 heures, donc c'est de l'Eric Fantasy par excellence.
Nibelungen, non ?
Voilà, exactement. Film très célèbre. Métropolis, alors c'est un peu épineux ça. C'est un film qui va le rendre très célèbre. C'est peut-être le film le plus célèbre qui ressort de sa filmographie quand on l'évoque au même titre que M. le Maudit. C'est un film auquel il va avoir idée quand il va arriver en 1924 en Amérique, quand il va avoir pour la première fois ses grands buildings à New York. Et il va faire le film avec sa femme, Thea von Arbou, qui à l'époque avait déjà plus ou moins des idées nazies. Et le sujet du film, qui est que voilà, on peut relier l'ouvrier et le patron par le cœur, c'était quelque chose que Fritz Lang ne partageait pas tellement. Et quand on parle de Métropolis, il dit certes, voilà, c'est le film le plus important de ma carrière, qui a coûté très cher, qui a été réalisé pendant un an, qui a coûté 30 millions d'euros actuels. Donc voilà, qui était un gros bide à l'époque. Certes, c'est un film qui m'a rendu très célèbre, mais c'est un film que je n'aime pas du tout. Et ensuite,
il faut dire aussi qu'il a quand même inspiré les plus grands cinéastes aujourd'hui Burton, encore. Voilà. De Tim Burton à Terminator, voilà, tout est là quoi déjà.
Voilà, Blade Runner, une esthétique futuriste, voilà. Etc. etc.
Et d'ailleurs, c'est un film tellement moderne, tu veux dire, tu prends le métro aujourd'hui, tu as les mêmes rangées de personnes. On se rappelle le célèbre plan des ouvriers qui font les 3-8. C'est des plans qui sont d'une modernité absolue.
Avec le crâne rasé, etc. etc. Et beaucoup, il y a beaucoup de théoriciens qui ont commencé à dire que ces films-là, Métropolis, annonçaient déjà le nazisme. D'ailleurs, pour l'anecdote, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, c'est aussi les légendes, il paraît qu'on aurait retrouvé dans le bunker une copie de Métropolis. Au même titre que avec le dictateur de Chaplin.
On a trouvé 20 minutes du film supplémentaire en Argentine il y a quelques
années. Oui, donc ça y est, maintenant la copie.
Bah, après, ce qui est sûr, c'est que Hitler avait vu les films de Fritz Lang, parce qu'une des légendes urbaines aussi, c'est qu'il serait un petit peu inspiré dans sa gestuelle d'un des truands de M. le Maudit. Ah, voilà, il y a tout un tas d'histoires comme ça. Après, moi, ce que je trouve, le discours de Fritz Lang dans Métropolis ou dans M. le Maudit, on va en parler, je pense, après, plus que vraiment une vision sur la montée du nazisme, moi, ce que je trouve vraiment intéressant d'un point de vue historique, c'est qu'il montre surtout la faiblesse de la République de Weimar, en fait. Plus, je pense, que de d'avoir une prédiction sur un régime comme ça qui pourra s'établir, c'est surtout qu'il montre une république qui est complètement chancelante et dont les groupes, la pègre, le peuple est complètement désorienté. Et voilà, moi, c'est en ça que je le trouve très fort, en fait. Quoi. Il montre l'instabilité d'une époque, en fait. Quoi.
Surtout dans M. le Maudit.
Surtout dans M. le Maudit, donc tu vas peut-être en dire quelques mots.
1931, son premier film parlant,
sonore, où là déjà il y a un énorme travail sur le son, qui raconte l'histoire d'un tueur en série à Berlin, interprété par Peter Lorre, qui a des problèmes psychologiques. Et alors, en plus d'être un très bon thriller, un très bon film de série killer, etc., Fritz Lang pointe du doigt ce que tu viens de dire, donc voilà, la montée du nazisme, et surtout pose des questions sur le jugement. Toute la fin du film, pour ceux qui l'ont vu, c'est le jugement de ce meurtrier par une sorte de pègre menée par un type tout habillé en cuir, tu vois, qui annonce le look des futurs gars de la Gestapo.
Et c'est celui-là justement, dont soi-disant Hitler se serait un petit peu inspiré.
Voilà. Le film au départ devait s'appeler Les assassins sont parmi nous. Et c'est les nazis qui ont fait le forcing pour que Fritz Lang change le titre en M. Le film va être interdit par Goebbels. Mais, alors là, va arriver un élément important, légendaire et plus ou moins véridique, où Goebbels aurait appelé Fritz Lang un jour de 1933, alors qu'il venait de sortir le testament du docteur Mabuse, troisième épisode de la petite saga Mabuse, où là, Fritz Lang met dans la bouche son personnage toutes les citations, toute l'idéologie nazie, où là, le film sera interdit par Goebbels, mais Goebbels, un jour, l'appelle et lui dit, écoutez, le Reich a vu au film, il trouve qu'esthétiquement, c'est extraordinaire ce que vous faites, on veut que vous soyez le cinéaste attitré du Troisième Reich. Et Fritz Lang aurait dit à Goebbels, vous savez, je suis juif, car sa mère, bien qu'elle va devenir catholique et que Fritz Lang va être baptisé, était juive. Et Goebbels lui aurait dit, vous savez, c'est nous qui décidons qui est juif, qui est arien. Alors, la légende veut, c'est lui qui, Fritz Lang, l'a romancé plusieurs fois dans les interviews, dans l'heure qui suit, il a fait ses bagages et il est parti. À l'époque, il était déjà plus avec Théa von Narbou. C'est pas tout à fait vrai. Il a mis plusieurs jours avant de partir. Il n'est pas parti en précipitation. Il va partir en 33 pour la France. Il va réaliser un film français, Lilium, un film fantastique. Et juste après, il va partir à Hollywood où il va marcher sur les traces d'Ernest Lubitsch, de Murnau, etc., etc.
Alors, pour revenir à M. Le Maudit, ouais, dans ce que tu disais aussi sur la fin, cette scène monumentale du jugement, ce qui est aussi, je trouve, très intéressant. Par rapport à l'époque, il y a ce regard, bien sûr, sur la politique de l'Allemagne, la catastrophe qui va sûrement arriver, en tout cas cette faible république. Mais il y a aussi quand même une grande question qui, je pense, est encore aujourd'hui d'actualité, c'est-à-dire sur les responsabilités aussi. C'est-à-dire qu'il laisse vraiment planer un doute sur est-ce que ce fameux meurtrier d'enfant, est-ce qu'il est responsable ou pas ? Enfin, il y a aussi toute cette question-là. C'est est-ce qu'on le juge comme un fou ou est-ce qu'on le juge comme un psychopathe ? Pas comme un psychotique, enfin il y a vraiment il y a des vraies questions par rapport à ça, quoi. Et vous savez quand même aussi, encore une fois pour la petite histoire, décidément sur Fritz Lang il y a beaucoup de choses, enfin là c'est plus sur l'acteur, que l'acteur quand même pendant des années et des années le mec il pouvait pas se balader tout seul dans la rue parce qu'il était pris pour un tueur d'enfants.
Il a une sacrée tête, Peter Lorre, oui,
il a vécu l'enfer à cause de ce film, hein.
En 35 il part en Angleterre et réalise, il joue le méchant dans L'homme qui en savait trop, la première version réalisée par Hitchcock. Mais il y a une autre anecdote sur Fritz Lang qui là est encore, on ne sait pas vraiment, mais on le soupçonne d'avoir tué, qu'il ait tué sa première femme. Et en fait, sa femme, on a supposé que c'était un suicide, mais pendant très longtemps, Fritz Lang était quelqu'un qui tenait un journal, précis, la minute près. Et Pierre Hissian a été son attaché de presse, ou je ne sais plus quoi, et donc du coup, il a beaucoup travaillé avec lui, et c'est lui qui rédigeait son agenda. Et il lui disait, mais pourquoi tu tiens absolument à noter à la minute près tout ce que tu fais? Il me fait, mais tu sais, on peut t'accuser pour un rien de quelque chose si tu ne dis pas exactement où tu étais ou ce que tu faisais à la minute près. Et du coup, il y a ce petit...
Oui, pour avoir des alibis, quoi.
Voilà. Et Fritz Lang, c'est quelqu'un qui adorait le crime, à l'instar de Hitchcock.
Justement, je pourrais dire une petite anecdote sur M. Le Maudit, puisque tu dis ça. Il faut rappeler que c'est un fait divers, quand même, à la base. Oui. C'est le vampire de Düsseldorf, dans les années 20, qui écumait la ville de Düsseldorf, qui est un tueur en série, qui tuait pas mal de femmes, etc. Et c'est l'un des tout premiers tueurs en série, à l'instar de Jack l'Éventreur en Angleterre, et qui a fasciné l'Allemagne à l'époque. Tous les plus grands journaux titraient sur le célèbre vampire. Et le film se base complètement là-dessus.
Et alors, on va avancer un petit peu dans le temps, parce que malheureusement, il nous reste seulement quelques minutes sur la fin de la carrière, un petit peu, de Fritz Lang, le milieu.
Le milieu, il arrive à Hollywood, il commence à faire des films anti-nazis, donc Chasse à l'homme, Chasse à l'homme, les bourreaux ne meurent pas, et même...
Le film noir, après, aussi.
Mais même le testament de Dr. Mabuse, c'était déjà un film anti-nazi. Et après, il va arriver, il va faire un Jesse James, il va faire des westerns, etc. Et il va venir au film noir.
Règlement de compte.
Règlement de compte, et où il va utiliser les techniques
technique du néo, enfin pas du néo-néoralisme, de l'expressionnisme allemand pour justement montrer, enfin caractériser la caractéristique du film noir américain de cette période-là. Et donc du coup, il va également rentrer un peu dans cette mouvance de films psychanalytiques où il va un peu questionner l'âme humaine, etc., etc. Et c'est dans cette dans ce registre que le Secret derrière la porte rentre. Le film est réalisé en 46, un an après la réalisation de La maison du docteur Edwards de Hitchcock, qui traité de ce thème-là. Et ce film, c'est peut-être le film le plus hitchcockien de langue, dans le sens où l'histoire, ça raconte l'histoire d'une femme qui rencontre un riche homme au Mexique. Elle va se marier avec lui alors qu'elle ne le connaît pas du tout, pratiquement pas. Et le soir après leur mariage, elle va se rendre compte que ce personnage-là avait une femme qui est morte dans des conditions étranges, qu'il a un jeune fils avec qui il ne s'entend pas, et surtout qu'il collectionne des chambres où il y a eu des meurtres. Il fait reconstruire des chambres où il y a eu des meurtres. Donc là, on a plus ou moins le thème de Rebecca, pareil, la personne qui se marie avec une femme qui se marie avec une personne au passé trouble avec la mort de sa femme. Et on a également le thème de Barbe Bleue. Et c'est un film, c'est à l'époque en 46, c'est le plus gros budget de Fritz Lang, $1 million et quelques de dollars. Ça va être un gros bide. Le film va être charcuté au montage. Il y a plusieurs versions, des séances tests qui ne fonctionnent pas du tout. Et par la suite, c'est un film qui va être considéré comme l'un des films les plus remarqués dans le genre film noir. À mon sens, à mon avis personnel, c'est un très beau film, mais il n'est pas aussi bien qu'un film qui a été pendant très longtemps invisible, House by the River, qui cette fois-ci est édité chez Walsall et qui était tout aussi bien. Et pour finir sur ce DVD, il y a un très beau portrait de Joan Bennett qui joue l'actrice du film, où on revient sur sa filmographie, et surtout un petit documentaire qui s'appelle « Pourquoi je suis intéressé par le meurtre » qui dure 17 minutes, qui est une lecture d'un entretien que Fritz Lang accorde dans « Trois Lumières », qui est un livre édité chez Ramsey Poche, où il explique sa passion pour le meurtre.
J'aimerais juste dire un tout petit truc pour finir. À la fin de sa carrière, elle a quand même fait des grands films d'aventure. Les Contre-Moyens du Moonfleet, Le Tombeau...
En Allemagne, en revenant en Allemagne, voilà. Il fait Le Tombeau à Doubs.
Voilà,
et pour boucler la boucle, du coup, il finit par Le Docteur Mabuse, quoi.
Exactement.
Ça qui est marrant.
Et ça, c'est vraiment inspiré des tâches, encore une fois, de cinéastes. Et si vous vous intéressez un petit peu à Fritz Lang, je vous recommande sur YouTube, vous le trouverez très facilement. Vous avez l'interview qui dure, je crois, 1h30, 2h, je ne me rappelle plus, de Fritz Lang par William Friedkin, c'est une leçon de cinéma. Comme Peter Bogdanovich, je fais beaucoup
Godard à l'époque,
d'interviews. Et c'est vraiment une leçon de cinéma. Ruez-vous dessus, c'est génialissime.
Secret derrière la porte, Carlotta, et le 26 avril, à l'Auditorium de Lyon, projection de Metropolis, la version intégrale avec l'orchestre.
Ok, super. Eh bien, écoutez, merci à vous, messieurs. On se retrouve très bientôt pour parler de cinéma sur Brume. Et d'ici là, ben, j'espère plein de beaux films. Alors.
Et surtout, n'allez pas voir les films de Marvel. Voilà, c'est mon coup de gueule.
Allez, on finit là-dessus.